Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Chers amis du bonheur, c'est Causer Kilti qui débarque sur vos ondes. Causer Kilti depuis Montréal, Causer Kilti depuis Mémoire d'un crié, Rodney Saint-Éloi. Monsieur, en face moi, monsieur gain mandarine à droite li, monsieur gain chapeau sous tête li, monsieur gain tablette li à gauche li, j'ai l'impression de me tromper de direction, même avec un poète. Au revoir.
Pas mal.
Rodney, comment est-ce?
Eh ben, en forme, n'am gade.
Oh ben, bonheur.
N'am gade.
Oui. C'est chapeau magicien ou?
C'est chapeau, ah, c'est orange là, c'est poésie, ah, c'est bayou qui. Tout bayou, bon côté nous.
Mais c'est mémoire d'un crié, un temple de livres qu'il y a autour de nous.
Ben, en fait, vivre avec des livres, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. Des fleurs, des oranges. T'as pas dit aux gens des fleurs parce que.
Oui.
Tout ici, des plantes et
mais
des fleurs.
C'est vrai, on est chargé de plantes.
Donc, c'est ça. En fait, parce que je pense que l'être humain est un être de grande beauté. Il faut nous entourer de beauté pour nous rappeler que nous sommes des êtres d'étincelles et d'espérance. Il ne faut pas oublier la lumière qui est en nous et l'espoir qu'on doit creuser tous les jours.
Est-ce que c'est ça pour toi le métier d'éditeur? Tu as l'impression d'éditer de la lumière, de soigner la lumière? Tu as l'impression que tu es un producteur d'intelligence?
Mais la lumière, elle est en nous. Je pense pas que je puisse produire ce qui est là. C'est simplement faire sortir. L'idée, c'est de faire sortir. C'est-à-dire, quand je parle de creuser, je parle souvent de creuser pour dire que l'or est là. Il faut simplement aller le chercher. Et il n'est pas loin, il est en nous. Parce qu'on pense que là, tu as commencé par dire bonheur.
Ouais.
Et puis, donc, c'est faire de la magie pour que le bonheur apparaisse.
Et comment tu définis ton métier, Rodney Saint-Éloi? Qu'est-ce
mais
que ça veut dire
être éditeur? Je suis un magicien.
Ouais.
Je fais de la magie. Je joue avec les 26 lettres de l'alphabet. Non, je ne suis pas un éditeur, je suis un magicien. Je ne suis pas un poète, je suis un magicien.
C'est la rumeur qui dit que tu serais éditeur.
Oui, c'est la rumeur. Ça, c'est un métier, on peut changer de métier. On peut changer de métier. Et ce qui est bien, ce que je ne veux pas rater, le vrai métier, c'est d'être un être humain.
Ouais. C'est le métier le plus important.
C'est le métier le plus noble. C'est le métier que tout être humain devait apprendre. C'est comment vivre la vie. Comment ne pas emmerder les autres. Comment être une fleur qui pousse. Comment être une chanson. Comment inviter les gens à danser. Comment regarder la mer. Comment faire en sorte que les aubes soient porteuses d'espérance.
À quel âge tu as commencé à être dans ce métier-là, ce métier d'être humain?
Et moi, j'ai commencé très tôt à écrire. J'avais, je pense, 12, 13 ans, j'ai commencé à écrire. Parce qu'en fait, ma grand-mère m'a appris, ma grand-grand-mère, Tida, m'a appris que j'étais un prince. Et un prince a un regard sur... Un prince, c'est celui qui a un regard sur le monde. Un prince, c'est une responsabilité. C'est celui qui, comme le berger du troupeau, devait amener dans le vrai chemin, devait amener vers la rivière, devait amener vers le soleil, devait amener vers... Et là... Il y a un ton à donner. Et là, très jeune, elle m'a dit que j'étais le plus beau. Donc, j'avais une idée de la beauté.
Ouais.
Il fallait, en fait, répartir. Donc, il fallait redistribuer cette lumière et cette beauté. Donc, c'est ma grand-mère qui m'a donné le sens de la beauté, le sens de la poésie et le sens de l'humanité. Parce que quand on parle de prince, c'est-à-dire que c'est pas gouverner pour être contre les autres, c'est-à-dire c'est être avec les autres. Être dans une aventure, en fait, d'humanité qui serait un vivre ensemble. C'est comment on est au rendez-vous de demain.
Ouais, absolument. Mémoire d'un crié, je vais encore revenir à ce lieu, vu que je suis reçu à Mémoire d'un crié ici à Montréal. 15 ans que ça dure, 15 ans de rencontres, 15 ans de voix, 15 ans de mots. Mémoire d'un crié signifie quoi pour toi comme réalisation?
Mémoire d'un crié, c'est en fait, et c'est essentiel parce que c'est là où j'ai mis toutes les idées que j'ai rencontré dans ma vie. Les idées sont des amis que j'ai rencontrés. Et j'ai fait une maison où j'ai mis tout ce qu'il y a comme livres, comme photos, comme humanité. Tu vois, c'est comme si je disais, mais le monde est ici. Quand je suis ici, donc c'est toute l'altérité, le monde en dialogue. Je pense que ce qui est, les gens font la guerre parce qu'ils n'arrivent pas à mettre au centre de leur vie ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire le livre, comme un facteur immense de dialogue et d'être ensemble. Et c'est ça quand je dis, et le mot, en fait, le mot solidarité est assez important. C'est comme si quand je suis ici, et puis j'ai en tête un poème de Joséphine Bacon et qui dit « Je vois loin », qui parle de l'horizon et en fait qui dit « Un thé dans la toundra ». Donc je me déplace de ce que vous appelez un bureau de mémoire d'encrier, je suis déjà dans la toundra quand je vois par exemple Paul Chamberlain, le poète québécois qui dit « Terre Québec ». Joséphine parle de toundra et Paul Chamberlain parle de terre. Vous voyez, c'est comme si il y a une autre dimension du Québec. Donc, je suis dans deux Québec. Le Québec des Premières Nations, qui est dans le Nitassim, à l'intérieur des terres, parce que c'était des peuples nomades, c'était une manière d'habiter la terre. Donc, il y a une autre manière d'habiter la terre. C'est sur le fleuve, au poteau du fleuve. Et Joséphine dit, je vois l'horizon. Donc, je suis dans la marche du continent.
Et ça fait la particularité, la signature éditoriale de Mémoire d'Encrier. Tu publies beaucoup d'autochtones.
Mais on publie les auteurs autochtones, je dirais, les plus représentatifs pour nous. C'est-à-dire, nous, on publie ce qui constitue pour nous des coups de cœur. On ne publie pas des livres, on publie des armes miraculeuses qui, pour dans notre mégalomanie, on pense que chaque livre qu'on fait va changer le monde. Et c'est pourquoi on les fait, c'est pourquoi on ne dort pas, on écrit, on vit en écrivant ou en éditant, parce qu'on pense qu'il faut qu'il y ait des êtres humains qui disent non, on doit changer le monde.
Je suis noir, je chante des chansons d'amour, un jazz mélancolique bat mon souffle, lamentin remontant la source. J'avale le verbe avaler, je marche vers le soleil, je rencontre un palmier. Paraît qu'il ne faut pas écrire le mot palmier dans un poème depuis que les touristes ont tarabiscoté l'île. Nous ne trahirons pas le poème, René Saint-Éloi, c'est ton tout dernier livre, recueil de poèmes sorti à Mémoire d'Encrier, évidemment. Quelle est la nécessité de ce livre?
Mais en fait, je pense que quand un livre n'est pas nécessaire, il faut le laisser dans le tiroir. Il y a beaucoup de tiroirs pour ça. Ce livre, c'est un livre qui vraiment me pose à moi la question, qu'est-ce qu'on trahit, qu'est-ce qu'on ne trahit pas. Et je pense que la poésie, à mon sens, devient extrême, radicale, dans le sens où il ne faut plus que jamais aujourd'hui changer la vie. C'était le vieux rêve de Rimbaud, il faut retourner et actualiser ce vieux rêve, réveiller, sonner la tombe, frapper la tombe de Rimbaud, dit Rimbaud, réveille-toi, comme on a réveillé Lazare pour dire marchons ensemble, allons et voyons comment on peut faire pour changer la vie des humains, pour changer aussi le regard, parce qu'on est en train de trahir l'aube. Est-ce que l'aube est restée aube aujourd'hui? Est-ce que quand on dit la mer, est-ce qu'elle est quand? Parce qu'il y a une pollution qui enveloppe toute chose, et quand les choses sont polluées, est-ce qu'elles sont restées, est-ce qu'elles n'ont pas trahi leur vocation? Quand on dit arbre, est-ce que l'arbre est encore arbre? Et je pense qu'il faut, et c'est ça la poésie. La poésie doit faire en sorte qu'on ne perde pas et le nom des choses et le sens des choses. Quand on dit pain, le pain doit rester pain. Le soleil doit rester le soleil. Et je pense qu'on revient au combat premier qui est de simplement nommer les choses. Un enfant n'est pas un enfant soldat. Un enfant, c'est d'abord un enfant. Un enfant qui crie est un enfant qui crie. Un pays, c'est un pays, c'est pas un dépotoir. Donc je pense que je suis revenu à l'enfance même des mots et à ma propre enfance. Qu'est-ce qu'on trahit? On trahit pas le regard, on trahit pas ce sourire, on trahit pas la main. On trahit pas le sens premier des choses.
Est-ce que, dans cette perspective, René Saint-Éloi, le poème, pour être efficace, est tenu de prendre position dans le réel? Parce que ce livre, est très engagé, Rodney Saint-Éloi. Ce livre déclare des choses qui sont graves.
Mais c'est une déclaration de guerre pour faire l'amour. Naturellement.
Absolument.
Et avec des mots.
Ouais.
C'est-à-dire, moi, je pense que le monde est grave. Le monde est grave. Si on doit se parler, on doit se parler en toute vérité, en toute franchise. En droit, je pense que c'est un monde qui se radicalise. Et on doit radicaliser la poésie pour pouvoir parler au monde. On doit multiplier peut-être pas les métaphores, peut-être pas les images, multiplier la conviction que la poésie peut sauver le monde. Multiplier la conviction que ce qui manque aujourd'hui quand on regarde la télévision, quand on regarde toute forme de communication, ce qui manque, c'est cette élégance nommée poésie. C'est ce désir d'être en vie, d'être vivant, appelé poésie. Donc il faut manifester, il faut vraiment, la poésie doit devenir comme un slogan aujourd'hui. C'est ça.
Tu écris, Rodney Saint-Éloi, « Je suis le Christ noir ». Est-ce que tu penses que les couleurs existent, les gens, les races, est-ce que ça existe?
Moi, je pense que les gens se trompent en disant de moi que je suis un nègre. Je pense que je suis beaucoup plus que ça. Je suis beaucoup plus qu'une couleur. Donc, je pense que toutes les couleurs sont en moi. Donc, c'est ça que les mots, on nous a appris qu'il y a des blancs, qu'il y a des noirs, qu'il y a des bruns, qu'il y a des rouges, qu'il y a des jaunes, alors que c'est un spectre. Donc, on est dans le spectre. Donc, et je pense qu'il n'y a pas d'injonction. Et la poésie enlève toute forme d'injonction. On peut pas me limiter à une case. Moi, je veux tout. Je veux pas être noir, je veux être blanc, je veux toutes les humanités et je veux toutes les conditions. Naturellement, il y a une condition noire. Naturellement, il y a une condition où il y a une oppression qui s'exerce. Et quand je parle de noir, c'est-à-dire que pourquoi on figure, on se représente le Christ comme blanc. Donc il y a un problème. Donc quand je dis je suis le Christ noir, c'est-à-dire que c'est pour dévier vraiment le langage. Il faut casser le discours, casser les formes de représentation traditionnelle et pour aller vers ce que j'appelle la décolonialité. Ce qu'on a appris, ce qu'on nous a appris à regarder, la manière dont on a défini les choses, parce que Toni Morrison disait justement que les définitions appartiennent aux définisseurs. Donc, il faut redéfinir ce que les définisseurs avaient défini dans le temps. Donc, le Christ, on peut dire qu'il est jaune. On peut dire qu'il est rouge, on peut dire qu'il est noir.
Carrément, on donne au Christ la couleur qu'on veut. Tu as parlé de décolonialité. Ce mot est très présent dans « Nous ne trahirons pas le poème ». Est-ce que tu trouves que toujours dans nos sociétés en Occident, est-ce que tu trouves qu'il y a toujours des processus coloniaux qui sont en œuvre? Est-ce qu'il y a toujours des colonisés quelque part?
Mais le processus colonial est en place plus que jamais. Regardez aux États-Unis comment la politique se fait aujourd'hui. Toute cette vague et idéologique qui est en train, toute l'extrême droite et la politique extrême droite un petit peu partout en Europe, est basé sur l'imaginaire colonial qui est très 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 fort, très 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 puissant. Ce sont des hommes blancs qui disent voici notre regard sur le monde, voici la manière de faire, voici le mode de vie qui est acceptable, voici ce que nous définissons comme humain, voici ce que nous acceptons comme migrant, voici ce que nous acceptons comme réfugié, voici nos frontières, voici les frontières qui sont nos frontières. Et si vous n'êtes pas de telle couleur, si vous n'êtes pas de telle manière, vous n'entrez pas. Il y a des injonctions pour dire même ce que, pour définir ou définir les êtres humains. Je pense que la décolonialité est une manière de repenser le monde.
Et la littérature permet de procéder à cette décolonialité?
Mais je pense que si on n'arrive pas à refondre les mots, à redire et ce que c'est que les êtres humains, pas dans une perspective anthropologique, mais je dirais dans une perspective poétique, pour dire l'être humain est une somme de miracles et de mirages. On ne peut rien comprendre dans un être humain. Un être humain est insaisissable. Il n'est pas noir, il n'est pas rouge, il n'est pas pauvre, il n'est pas blanc, il n'est pas riche, il est tout.
Et que doit-il faire face au racisme, Rodney Saint-Éloi?
Il faut qu'on dépasse le racisme, il faut qu'on combatte le racisme, et c'est avec une pensée décoloniale qu'on peut combattre le racisme. C'est-à-dire que les victimes même du racisme doivent pouvoir se dire que c'est pas vrai, ça n'existe pas. Le monde, comme Frantz Fanon disait, je ne suis pas esclave de l'esclavage qui a réduit en esclavage mes pères et mes mères. Donc, ce qui est fondamental, en fait, je crois, aujourd'hui, c'est d'arriver à une pensée décolonisée. Quand je dis une pensée décolonisée, et ça, c'est le livre qui va pouvoir le faire, c'est-à-dire que la question de race est une question circonstancielle. C'est-à-dire que c'est un hasard. Si je suis né en Haïti, j'aurais pu être né en Suisse. C'est un hasard si je suis ici, au Canada, j'aurais pu être à Casamance. Pas à Montréal, j'aurais pu être à Casamance. Donc, et ce qui est drôle, c'est que moi-même, dans ma propre identité, j'en ai parlé. Et dans ce livre, Nous ne trahirons pas le poème, quand j'arrive au Sénégal, on m'appelle Ouagane. C'est-à-dire celui qui ne peut pas être vaincu. C'est Ouagane. C'est ça que mes frères sérères m'appellent. Quand j'arrive chez les Innu, ils m'appellent Outino Mouniche. C'est-à-dire le gros chat de la forêt. Donc, vous voyez, donc, j'ai un certain nombre d'altérités. Donc, arriver dans une culture et me renommer, c'est un acte de décolonialité. C'est-à-dire, ils ont enlevé mon ancienne peau et ils m'ont mis dans un siècle, dans une autre humanité. Moi, je pense pour entrer dans une autre humanité, on doit désapprendre ce qu'on nous avait appris. Parce que ce qu'on nous avait appris, la manière dont on nous avait appris à regarder le monde, les mots et les choses, cette manière-là, elle est fausse. Elle conduit à la catastrophe contemporaine.
Rodney Saint-Éloi, est-ce que pour procéder à cette décolonialité, il faut un parti pris linguistique? Est-ce qu'il faut parler créole et non français? Est-ce qu'il faut parler innu et non anglais? Est-ce que ça prend une langue?
Ça prend plus qu'une langue, ça prend les 6000 langues de l'humanité. Il faut réactiver ces 6000 langues de l'humanité pour dire qu'il n'y a pas une langue, et il n'y a pas deux langues, il n'y a pas trois langues, il y a 6000 langues. Donc, il y a des imaginaires qui sont en présence. Et c'est pourquoi ici, on parle Wolof, je vous parle de Innu. Il faut respecter. Et en fait, je dirais, il faut respecter toutes les aubes. Il faut pas dire que si le soleil se lève à l'est et l'est, c'est là pour nous. Il faut pas dire que le soleil se couche à l'ouest, c'est là pour nous. Il faut, parce qu'il y a un ensemble de contrées, il y a un ensemble d'espaces qu'on doit appeler, qu'on doit habiter. Il y a même des espaces, c'est-à-dire qu'il faut que notre corps devienne beaucoup plus grand. Il faut que nous devenions beaucoup plus grands dans notre imaginaire, dans notre manière d'imaginer le monde.
Mon amour bègue, je dis terre, mon amour d'épices, je dis mer par ta bouche. L'air devient potable, l'eau claire, l'orange décline l'été en quartier d'étoiles. Je me suis beaucoup arrêté sur le bégaiement de l'amour. Est-ce qu'on ne s'aime que dans le bégaiement, c'est-à-dire que dans l'hésitation? Est-ce que l'acte d'aimer est presque à moitié accompli à chaque fois? D'où le bégaiement.
Le bégaiement est important pour moi. J'adore les gens qui bèguent parce que j'ai l'impression qu'ils comprennent trop le monde. Et l'expression est un déphasage par rapport à la vérité du monde. Donc, le corps de l'aimé est une ruche, et que, tu vois, pleine de miel, et puis qu'il est en train de savourer, et en même temps, il est comme un innocent. C'est ce mensonge, c'est ce mirage que je pense qui est beau dans le bégaiement. On croit qu'il hésite vraiment dans le langage, et pourtant il voit tout. C'est comme si le bègue, il a une supériorité sur les non-bègues, parce que les bègues ont laissé un temps de respiration au langage. Et je pense que ce temps d'hésitation est propre à la poésie.
Et à l'amour,
et
l'amour
à, hésite. Absolument, l'amour hésite.
Le désir a besoin d'une halte. L'aimer coule mes cellules, le temps est facultatif, aléatoire l'identité. Ma parole n'a point de bouche, je serai lapidaire comme l'horloge. Faisons cause commune, restons côte à côte, bouche à bouche, au seuil de l'étreinte. Être lapidaire comme l'horloge, c'est le temps qui vous pose problème, monsieur Saint-Éloi. Vous ne l'aimez pas, le temps?
Mais le temps n'existe pas, c'est-à-dire que l'horloge est lapidaire dans la mesure où l'horloge te dit quelle heure il est. Et quand on est dans l'absolu, on n'a pas besoin d'heure, on a besoin d'un temps. Le temps est beaucoup plus. Le temps nous appelle à une comptabilité. Le temps nous appelle à une certaine plénitude. Donc c'est vers la réalisation de nous-mêmes, vers la réalisation de cette plénitude. Et je pense que cette parole de plénitude, qui est une parole d'amour, mais qui est une parole de décolonialité, où l'être, par l'amour, recouvre sa dimension de plénitude.
Mais le désir a besoin d'une halte.
Oui, c'est comme le bégaiement. C'est-à-dire que haltons-nous. C'est-à-dire qu'il faut s'arrêter. Donc, on est dans l'accélération de tout. Dans l'accélération, on ne peut que passer à côté, comme le dit si bien Césaire, passer à côté du cri. Mais pour ne pas passer à côté de notre cri, le bègue, il s'arrête et il arrête la parole. Et la parole devient beaucoup plus précieuse.
Pour ma défense, je dirais simplement, tout testament est immonde. Je n'ai d'antécédent que l'ouragan. Je ne suis qu'un paquet d'os. Je n'ai que les vents indomptés, corps recommencé corps, sauvagesse décoloniale, le cadastre de mes vergers secrets, le tremblement de ma joie nue. Tu n'as d'antécédent que l'ouragan et tu n'es que des eaux. C'est ça ta définition de la condition humaine, un peu comme dirait Bukowski, nous sommes faits de jus et de merde et d'os.
Oui, ce qui est important, c'est vraiment cette espèce de décomposition. Là, tu parles bien de Bukowski, mais moi, je suis en connexion avec les éléments où on est un élément parmi les éléments, où on est un arbre parmi les arbres dans la forêt, où on est et on est vraiment dans la puissance des éléments. C'est-à-dire que où l'être humain naît. Qu'un outil, l'être humain n'est qu'un outil dans ce grand assemblage assez complexe qu'est l'humanité. Parce que ce qu'on nous apprend que on est ci, on est ça, qu'on peut déployer une puissance. Et là, dans la poésie, on a senti, par rapport au monde, par rapport à l'humanité, par rapport à un arbre que je regarde, que suis-je? Quand j'ai adopté un arbre sur le Mont-Royal, et quand je lui dis bonjour, je regarde et l'immensité de cet arbre, qui a peut-être 225 ans d'après ce que j'ai contrôlé, et puis je me vois toujours petit, donc je dis à un ancêtre. Donc l'arbre, un arbre, est simplement un arbre. Donc quand je vois l'arbre, je vois mon corps si petit par rapport au corps de l'arbre. Et c'est pourquoi je pense que l'être humain est peut-être l'élément le plus vulnérable de la planète. Et pourtant, on se prend très, très au sérieux.
Jusqu'à avoir des discours sur la planète.
Absolument.
Mon père est venu tard. La vie est cette joie en moins. La petite enveloppe jaune au coin de la rue. Je me souviens, les camarades de misère repassaient la canne à sucre sous les lampadaires. La voiture jaune filait en sens inverse de mes yeux d'enfant. Tu parles de camarades de misère. Mmh. Est-ce que la misère est un marqueur d'échec collectif?
La misère est... Moi, je suis haïtien. Quand je suis haïtien, c'est-à-dire... Et je pense qu'il y a un marqueur collectif pour tous les Haïtiens. Et c'est dommage que les gens pensent diviser le monde en ceux qui, pour nous, notre camp en Haïti, pour ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Ceux qui mangent sont riches, ceux qui ne mangent pas sont pauvres ou bien sont dans la misère. Moi, je dis tout ce qui touche les Haïtiens en tant qu'Haïtiens me touche, mes camarades de misère, c'est mes camarades qui ont faim. Moi, il n'y a pas le sauve qui peut. tant dans un pays où la majorité des enfants ont faim. Donc, je pense que ce sont mes camarades de misère. Que j'ai faim ou que j'ai pu moi-même avoir un plat. Donc, il faut regarder ça comme un marqueur effectivement collectif. Et trop souvent, on sort du collectif pour courir, pour voir si on peut exister en dehors du collectif. Malheureusement, que le vivre ensemble, c'est aussi d'accepter ce qui est collectivement assumé et assumable.
Mais si cette misère, elle est autant collective, cet échec est autant collectif, est-ce que ça sous-entend que le collectif haïtien n'est pas suffisamment intelligent? C'est-à-dire, il n'est pas capable de se colter à ses problèmes et de les résoudre.
Et la difficulté en Haïti, c'est qu'on nous a appris à chaque Haïtien de se défendre du bec et des ongles de la misère. En fait, pour ne pas tomber là. Et au lieu de soutenir la charpente, le squelette collectif, on soutient notre propre squelette. On a oublié qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse. C'est pourquoi, j'aime beaucoup l'architecture haïtienne. Dans le pays, il n'y a pas de palais. Mais vous voyez, quand les élites haïtiennes, les élites économiques, je veux dire, chaque famille construit son propre palais. Mais le pays n'a pas de palais. Le pays n'a pas de grande bibliothèque, il n'y a pas d'immeuble imposant. Et les grandes bibliothèques, ce sont chez les familles riches de ce pays. Donc, alors que je pense que ça devait être le contraire. Et c'est comme, vous voyez, la question quand vous prenez les arbres en Haïti, on dit, bon, c'est un pays complètement, il n'y a pas d'arbres, il n'y a absolument rien. Et j'ai dit, mais non, Haïti, c'est un pays qui est reboisé, mais à l'envers. Dans les cours des grands riches haïtiens, on voit qu'il y a beaucoup d'arbres. Il y a une manière de regarder ce pays. Vous voyez que c'est très boisé, mais c'est la cour des gens. C'est autour des piscines des gens, c'est pas sur les montagnes. C'est-à-dire que moi, je pense que le regard, il n'y a pas de regard sur le collectif. On n'a pas appris aux gens à dire « construisons une école pour la République ». On n'a pas appris aux gens à dire que « nous ». Nous, c'est-à-dire que c'est eux et les autres. Donc, on est toujours en perpétuel combat avec nous-mêmes. On est toujours en perpétuel combat avec notre propre survivance. C'est-à-dire que toutes les stratégies développées tombent dans la survivance. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu rendez-vous avec l'histoire pour que l'histoire, au lieu de produire la violence, puisse produire de l'espoir.
Merci, Rodney Saint-Éloi.
Merci, mon cher ami.
Nous ne trahirons pas le poème. Nous sommes à la fin de Causer Kilti. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci à James Guillou qui assure le montage. Merci à nos partenaires que sont l'ambassade de France en Haïti, l'ambassade de Suisse en Haïti, l'Institut français d'Haïti, la Focale, l'OIF, Gadon, Bonheur. Si vous m'appelez D'Angelo Néard, je ne me fâcherai pas. Je vous laisse avec du vent. Fais vent pour moi. Boulot Valcourt, Gadon, Bonheur.
Pendant qu'abri tapsi mes pharmacies, soleil la boule m'livre fait m'enrager. L'onange donne comme un baiser tout côté. Fais vent pour moi chérie, fais vent pour moi, fais vent pour moi chérie, fais vent pour moi. Débaqué, à conti vidal mouche cap coincé m'cap mordé. Mi midi mais toute cloche ap sonné. Ferraille sous bot mais déchaîné. Yon faible entier cap passé, cap ferme fou cap relé. Cap mandé acheter bon bac chaudière qui crevait.